au point de vue de la création. Hein. Parce que il y a une émanation au niveau des causes secondes, ici c'est l'émanation première, à partir du rien, c'est-à-dire à partir de Dieu. Il n'y a que Dieu. Tout sort de Dieu. Sans rien ajouter à Dieu, et sans rien diminuer de Dieu. Difficile à comprendre pour nous, parce que quand vous prenez 3 sous de votre bourse, vous vous diminuez. N'est-ce pas ? Ça vient de vous. Tout ce que vous faites vient de vous. Et donc, ça vous diminue quand vous faites un effort. C'est quelque chose que vous donnez. Là, il n'y a pas d'effort. C'est merveilleux. Dieu ne se diminue en rien en créant. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Hein. Si vous me dites, ah, moi je comprends très bien la création. Est-ce que vous en avez l'expérience? Non. Donc vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez pas l'expérience de la création. Vous avez l'expérience d'un fat chéré qui vous use. Un fat chéré, ça use. On travaille, quoi, tout simplement. Et un travail implique une application, implique une certaine usure. On est usé à la fin de sa journée. Quand on a travaillé toute la journée, on est usé. Parce qu'on ne crée pas. Là, il y a une résistance qui vient de la cause matérielle sur laquelle on travaille. Dieu n'a pas de cause matérielle. Tout vient de lui et tout retourne vers lui. Alors qu'est-ce que ce mode particulier ? Je le conçois à la manière d'un devenir. Mais je sais que ce n'est pas un devenir. Et ça, c'est le propre de l'intelligence. Elle peut arriver à concevoir à la manière d'eux en sachant que ce n'est pas ça. Vous allez dire, mais pourquoi on fait ça? Parce que c'est la seule manière que vous avez, le seul analogué, vous avez le devenir. Tout don, tout passage, pour vous, est toujours conçu à la manière d'un devenir. Et vous pouvez concevoir qu'au niveau de l'être, il n'y a pas de devenir. Puisque l'être, par définition, est au-delà du devenir. Et vous pouvez concevoir un passage qui se fait au niveau de l'être, et donc qui est au-delà du devenir, et cependant vous ne le concevez tout le temps sous le mode du devenir. Bien, c'est ça que fait saint Thomas ici. C'est pour ça que c'est épuisant au point de vue intellectuel, hein, parce qu'on affirme et on nie tout de suite. C'est le modus intelligendi qui ne correspond pas à la réalité que vous avez. Votre mode de connaître est comme ça, vous ne pouvez pas concevoir autrement. Vous concevez selon le mode des prédicaments. Le mode des prédicaments vous donne la manière dont vous concevez la qualité, la quantité, le mouvement, action et passion. Vous concevez comme ça, vous ne pouvez pas concevoir autrement. C'est votre conditionnement intellectuel qui est comme ça. Parce que tous vos jugements passent par l'appréhension. Et vous ne pouvez pas saisir directement un jugement sans l'appréhension. Et donc, nécessairement, sont les catégories. Les catégories vous donnent bien la manière de l'appréhension. Parce que saint Thomas a très bien vu ça. Alors, il le fourre en logique, peu importe, mais il a très bien compris que notre manière de concevoir, c'était toujours par l'appréhension. Et alors, l'appréhension nous donne cette diversité de manières de concevoir. Et je ne peux pas juger sans appréhension. La condition sine qua non de tout jugement, c'est l'appréhension, comme on dirait dans un langage kantien. Dans un langage kantien, on dirait que le Saint-Père, dans Personne et Acte, rappelle cela. Ça, j'étais heureux de le trouver, parce que je me suis dit, bon, alors là, on voit qu'il a dépassé Kant, qu'il revient à une position aristotélicienne et thomiste, pour essayer de concevoir justement qu'avant le jugement, il y a l'appréhension. Parce que dans une position purement kantienne, c'est impossible. Alors, article 4. Être créé est-il propre aux êtres composés et subsistants? Donc la dénomination d'être créé, hein, comprenez bien la position théologique. Être créé, est-ce que c'est propre aux êtres composés et subsistants? Saint Thomas dit oui. Être créé, c'est d'une certaine manière devenir, ainsi qu'on l'a expliqué, d'une certaine manière, selon notre modus intelligendi. C'est pas du tout devenir, hein. Être créé, c'est pas du tout devenir. Mais c'est d'une certaine manière devenir, parce que je ne peux pas le concevoir autrement. Donc c'est le début de l'article. Hein, Or, le devenir a rapport à l'être et incline à l'être. Fieri autem ordinatur ad esse, ordinatur ad essere. Donc tout fieri est ordonné à l'essere. Donc, ceux à qui appartiennent l'être, c'est à ceux-là qu'il appartient proprement de devenir et d'être créé. Le devenir n'est intelligible que par l'être. Toute l'intelligibilité du devenir vient de l'être. Je ne pouvais pas concevoir le devenir sans l'essai. Donc, ceux à qui appartient l'être, unde illis proprie convenit fieri et creari, quibus convenit esse. Il y a un parallélisme rigoureux qu'il faut bien saisir, qu'il faut bien comprendre, entre deux points de vue. Le fieri et l'esse. Tout fieri est ordonné à l'esse. Et c'est l'essai qui donne la signification au fieri. C'est important de comprendre ça. Alors, vous voyez, si vous n'avez pas compris ce que c'était qu'une philosophie première qui est au niveau de l'essai, il est difficile de comprendre le fieri. Alors, vous voyez ça comme c'est intéressant. Alors, comme ça, c'est la remise en question, y a-t-il une connaissance philosophique du fieri sans la métaphysique ? Philosophie de nature. Si je prends matériellement ce que dit saint Thomas ici, je dirais pas de philosophie de la nature, uniquement de métaphysique. Alors, or, il existe une philosophie de la nature, donc ce que dit saint Thomas n'est pas tout à fait juste. Vous voyez ? C'est très net au fond, puisque tout fieri se comprend par un essai. Alors n'oublions pas, nous sommes en théologie. C'est là où on voit très bien ce que c'est que le théologien et l'analyse du philosophe. Pour le théologien, c'est très net, pas de connaissance du fieri sans la connaissance de l'essai, c'est sûr, dans une vision de sagesse. Il y a un télescopage de la philosophie de la nature. Je vous dis ça, c'est pour comprendre simplement ce que dit saint Thomas aussi, quand il dit « Fieri autem ordinatur ad essere, unde illis » Proprié convenit fieri et creari, quibus convenit esse. Il y a un parallèle rigoureux entre les deux. Donc, ceux à qui appartient l'essai, c'est à ceux à qui il appartient proprement de devenir et d'être créé. Or, cela appartient proprement au sujet subsistant. Seules les réalités subsistantes ont une relation directe avec l'essai. Qu'ils soient simples comme des substances séparées ou qu'ils soient composés comme des substances matérielles. Cette division des substances matérielles et des substances composées, c'est une division que le théologien fait et que le théologien seul peut faire. En effet, l'être appartient proprement à ce qui vraiment a l'être et subsiste en son être. À la différence des formes, des accidents ou des autres entités de ce genre qu'on dit être non qu'elle-même soit, mais parce que par elle-même, quelque chose est. Ainsi, la blancheur est dite être, parce que c'est ainsi. La blancheur est dite être, pour cette raison que grâce à elle, un sujet est blanc. C'est pourquoi, selon le philosophe, l'accident est dit plus exactement chose d'un être qu'être. L'accident n'existe qu'en fonction du sujet. Donc, il est en réalité quelque chose d'un être. Il n'est pas être au sens absolu. C'est pourquoi, selon le philosophe, l'accident est dit plus exactement chose d'un être qu'être. Accidens magis proprie dicitur entis quam ens. C'est mieux dit en latin. N'est-ce pas ? Plus clair. C'est beaucoup plus clair en latin. Donc l'accident, c'est beau comme formule du reste. Accidens magis proprie dicitur entis quam ens. L'accident, c'est de l'être. Mais ce n'est pas l'être. Parce qu'il ne subsiste pas en lui-même. Donc il est tout entier relatif à un autre. Donc il est de l'être. Il est tout entier relatif. Entis, non ens. Comme donc les accidents, les formes et autres entités non subsistantes sont plutôt des coexistences que des êtres. Sicut digitur accidentia et forme et unius modi que non subsistunt magis sunt coexistentia quam essentia. Ainsi doivent-elles être dites concrètes plutôt que créées. Ce qui est proprement créé, ce sont les choses subsistantes. Très intéressant, vous voyez. Alors, est-ce que l'âme humaine est-il créée ou est-ce que l'âme humaine est concrète, hein? Posez-vous la question. D'après ce petit article très 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 beau, hein? Vous voyez, c'est simple à comprendre. L'acte créateur se termine à l'essai. Dieu crée des êtres. C'est sûr. Ça se termine à l'essai. L'essai participé. Nous l'avons vu. Où l'essai participé existe-t-il? L'essai participé n'existe pas au niveau du fieri, puisque le fieri t'ordonnait l'essai. Dieu ne crée pas un devenir. Dieu crée des réalités subsistantes. Mais c'est très intéressant pour ceux qui ne veulent plus concevoir l'univers qu'un monde de relativité. Uniquement un devenir. Est-ce qu'un monde de relativité peut être créé ? Non. Dieu crée des êtres. Il ne crée pas un jeu de relations. Un pur jeu de relations, un pur monde uniquement de relations, non, il ne peut pas être créé. Il ne peut créer que des êtres qui, eux, existent en eux-mêmes et qui impliquent alors des quantités de relativité. Mais il y a nécessairement une réalité qui, en elle-même, subsiste. Même s'il n'y a que l'homme, hein, c'est suffisant. Je ne veux pas dire du tout le monde physique, ben, c'est très difficile. Je veux dire, ne cherchez pas la substance de l'eau. Est-ce que Dieu crée l'eau? Vous voyez, c'est la question. Hein. Est-ce que Dieu crée l'eau? Est-ce que Dieu crée la pierre? Est-ce que Dieu crée un être physique? C'est difficile, hein. Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Quand vous êtes en face d'un astronome qui vous montre comment l'univers physique est un univers qui est un tout et dont toutes les parties sont relatives les unes par rapport aux autres. Hein. Vous ne pouvez pas en tirer une partie en disant cette partie, elle subsiste. Non, non, non. Tout se tient dans un tout. Alors, Dieu ne crée pas un tout. Il crée des réalités subsistantes. C'est pour ça que la métaphysique ne peut pas regarder un tout. Impossible, Dieu ne crée pas un tout. Dieu crée des réalités subsistantes. Il y en a une qu'il crée, c'est au moins l'homme. Nous sommes une réalité subsistante. Nous avons notre autonomie dans notre être. Nous avons notre autonomie dans notre vie. Nous avons notre autonomie dans notre être. Nous subsistons. La vache. Est-ce qu'il crée la vache? Que la vache est un être créé ou concret. Il est toujours avec un autre à côté. C'est ça, concret. C'est jamais créé pour soi. Vous savez, si vous poussez ça jusqu'au bout, hein, vous allez voir tout de suite. Hein. C'est simple, hein, c'est très très simple au niveau de la Saint-Thomas. C'est une simplicité absolue. Le fieri est ordonné à l'essai. Et donc, Dieu crée des êtres qui subsistent. Quels sont les êtres qui subsistent? Est-ce que l'univers n'est-il pas uniquement un domaine du fieri? Est-ce que la vache, elle est uniquement un domaine du fieri, ou est-ce qu'elle existe? La vache existe, c'est sûr qu'elle existe, mais est-ce qu'elle existe en fonction d'un autre? En fonction de l'espèce vache. C'est une espèce vache. C'est sûr. Alors est-ce qu'elle existe en fonction de l'espèce? Est-ce que seule l'espèce subsiste? Ou est-ce que chaque individu subsiste? Quand on sait que la vache n'a d'autre orientation que de créer une autre vache. C'est sûr. Pour que l'espèce subsiste. Parce que la vache a une autonomie. Elle est toute relative à l'espèce vache, pour que ça subsiste. Mais c'est très très compliqué de formuler ce problème-là. Alors, vous ne savez plus très bien, mais il faut regarder cet article-là. Alors, tout est sauvé dans l'homme. Dieu crée des êtres subsistants, c'est sûr. Enfin, alors le monde physique, vous voyez, est entièrement pour la création de l'homme. Et qu'au fond, l'homme est uniquement le monde, ce pourquoi Dieu a créé. Tout le reste, c'est, en quelque sorte, ça existe, c'est bien évident, ça existe. Mais ça n'a pas d'autonomie. Donc un acte créateur de Dieu n'aurait pas de signification. Si Dieu, ça va très loin, parce qu'alors, au fond, la création ne peut se légitimer qu'au niveau de l'esprit. Si je prends ça jusqu'au bout, ce sont les seuls êtres qui subsistent. Ce serait pas sage de Dieu de créer l'eau, ma sœur eau. Ce serait pas sage de la part de Dieu de créer un monde uniquement physique. Non. Le monde physique est ordonné au monde de l'esprit. Et seul l'esprit subsiste. Et donc, seul là, il y a vraiment un acte créateur de Dieu. Tout le reste est ordonné à ça. Vous voyez, c'est très important pour la question de l'évolution, concevoir comment le monde a été créé au point de départ. Au fond, le théologien, il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Parce que quand il essaie de comprendre la manière dont les choses existent, l'acte créateur regarde une réalité subsistante. Où y a-t-il une réalité subsistante? Est-ce que la réalité subsistante, c'est l'eau? Est-ce que c'est le tout? Je crois que c'est le tout, dans le monde physique. Et dès que je touche l'esprit, ah, réalité subsistante. Il y a le tout et l'esprit. Alors, la vache, intermédiaire entre les deux. Bon. Réfléchissez à ça, ça pose des tas de problèmes. Hein. Ça n'en résout aucun. C'est ça qui est merveilleux. Ça pose un tas de problèmes. Ça ne résout absolument pas les problèmes. Non. Ce n'est pas le rôle du théologien de résoudre les problèmes. Les problèmes du monde physique, mais non, c'est laisser les physiciens les résoudre et ils ne les résolvent pas non plus. Donc on est en face d'un problème qui reste ouvert. Il ne faut surtout pas le fermer. Il reste ouvert. Alors, regardons la première objection. Plusieurs motifs semblent s'opposer à cette conclusion. Tout d'abord, il est dit au livre des causes que la première des choses créées est l'essai. Or, l'essai d'une chose créée n'est pas un être subsistant. Donc, la création ne peut pas être propre au subsistant et au composé. Alors, quand le livre des causes dit que la première des choses créées, c'est l'essai, il n'entend pas désigner par le mot « être » la substance créée, mais l'aspect précis sous lequel la création atteint son objet. Dieu atteint tout sous l'angle de l'essai, et non pas sous l'angle du devenir. C'est la différence du menuisier. Le menuisier atteint tout sous l'angle du devenir. Et l'ingénieur, qui est un grand menuisier, n'est-ce pas ? Il atteint tout sous l'angle du devenir. L'homme n'atteint son travail et le travail que sous l'angle du devenir. Dieu atteint tout sous l'angle de l'essai. En effet, Si une chose est dite créée, c'est parce qu'elle est être, non parce qu'elle est tel être. Vu que la création est une émanation de tout l'être, issu de sa source universelle, ainsi qu'il a été dit. La façon de parler qu'on relève est comme si l'on disait que la première chose visible est la couleur, bien que ce qui est proprement vu, ce soit la chose colorée. Donc ça, c'est un très bon exemple, tout simplement, pour montrer que c'est notre manière de parler. Mais c'est vrai que tout est vu sous l'angle de l'essai, toute la création. Dieu, en tant que l'acte créateur regarde tout sous la ratio esse, sous la raison d'esse, et non pas sous la raison du devenir. Mais l'acte créateur se termine à la réalité subsistante. L'acte créateur ne se termine pas à laisser participer. Il ne faut pas chosifier laisser participer. Il faut au contraire comprendre que l'acte créateur regarde tout sous le point de vue de laisser participer, mais que l'acte créateur se termine à la réalité subsistante. Alors, où y a-t-il réalité subsistante? La question empoisonnante. Je crois, je dirais moi personnellement, je dirais la personne humaine. Le tout physique. Que ce tout ait été créé de telle ou telle manière au point de départ, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et l'hypothèse. Très bien. Mais le tout physique pour la personne, en vue de la personne. Tout l'univers est pour l'esprit, pour que l'esprit puisse apparaître dans notre univers physique. Tout l'univers, c'est pour ça. Ça n'a pas d'autre signification profonde. Donc ce tout implique des parties relatives, vous pouvez les analyser très très bien, mais au fond c'est le tout. Et seule subsiste, dans son autonomie parfaite, la personne humaine. Alors vous voyez comme c'est important, je crois, de saisir ce point de vue-là. Et tout est saisi sous l'angle de laisser participer. Mais laisser participer n'est pas ce qui termine l'acte créateur. Ce qui termine l'acte créateur, c'est le tout et la personne. Et j'allais presque dire, la personne à travers le tout, mais à travers, attention, impliquant le tout. Parce que la personne implique le point de vue du corps et le point de vue de l'âme. L'âme est créée dans le corps et le corps est lié au tout. Alors, si je veux aller jusqu'au bout, l'âme seule subsiste dans le corps. Dieu ne crée pas une âme séparée. Ça, c'est les anges. Et comme je ne regarde pas la création des anges, je regarde la création avant tout. Remarquez que le traité de la création regarde aussi bien le traité des anges que des hommes. L'avantage de l'ange, c'est qu'il est un univers en lui-même. Il n'a pas besoin de l'univers. Nous sommes, pauvre petit esprit, nous avons besoin de nous appuyer sur un plus petit que nous. On s'appuie sur le corps, et le corps s'appuie sur l'univers. Parce que notre pauvre corps humain, s'il était seul, ne pourrait pas vivre. Il a besoin de l'univers. Donc il est immergé dans l'univers. Mais l'âme spirituelle, l'âme créée dans le corps, donne à la personne humaine d'être un tout. Donc il y a deux tout. Il y a le tout personne et le tout univers. Il faut réfléchir à ça. C'est important pour dépouiller, voyez, toutes les images que nous avons et arriver à avoir un regard théologique. Parce que c'est important d'avoir un regard théologique sur l'univers. Et je crois que c'est ça, le regard théologique sur l'univers. Évidemment, ça présuppose une métaphysique. Ça, c'est sûr. Ça présuppose une métaphysique, mais c'est pas de la métaphysique. Hein. On est en théologie. On est en théologie. En théologie qui se sert d'une sagesse philosophique. La sagesse philosophique impliquant le point de vue de laisser participer. Deuxième objection. En outre, ce qu'on dit créer est fait de rien. Or, les composés ne sont pas faits de rien. ils sont faits de leurs composants. Donc, il n'appartient pas aux composés d'être créés. Ça, c'est une objection logique merveilleuse. Hein. Vous êtes intelligent pour faire ça. Alors, réponse. Il est bien vrai que les composés sont formés de leurs éléments. Mais tel n'est point l'objet de la création. Un composé est dit créé quand il est produit dans l'être avec tous ses principes immanents. C'est le tout. C'est pour ça que je dis le tout. L'âme est créée dans le corps et l'âme est créée comme principe subsistant qui permet au corps d'être ce tout. Et Dieu crée sous la lumière de laisser participer. Et seul le tout a laissé participer. Troisième objection, on peut dire encore, ce qui est produit proprement lors d'une première émanation, c'est ce qui se trouve supposé dans la seconde. Ainsi, une chose naturelle est produite par génération naturelle. Elle est présupposée aux opérations de l'art. Mais ce qui est présupposé à la génération naturelle, c'est la matière. Donc, c'est la matière qui est proprement créée et non le composé. Alors, quant au troisième argument, il ne prouve point que la matière seule soit créée. Il prouve que la matière n'est point autrement que par création. Au vrai, la création est la production de tout l'être et non pas seulement de la matière. Alors, vous voyez, c'est toujours cette idée-là. Creatio est productio, totio esse. C'est la production de tout l'être. De tout l'être d'une façon compréhensive. La création regarde l'essai, donc c'est tout l'être. C'est pas telle forme, c'est pas telle matière, non, c'est l'être comme tel. C'est le propre de l'acte créateur de Dieu. C'est de regarder production totius esse. Alors vous n'avez qu'à réfléchir là-dessus et vous rejoindrez toutes les conclusions de saint Thomas. N'est-ce pas? Production totius esse. La création, c'est la production de tout l'être. De l'être dans sa totalité. Alors maintenant, nous pouvons arriver aux questions qui terminent, voyez, cette question 45, qui sont alors proprement des questions, j'allais dire, plus théologiques, et qui sont très intéressantes. Appartient-il à Dieu seul de créer ? On pourrait dire, vous voyez, que jusque-là, c'est le théologien qui se sert de la sagesse théologique, de la sagesse philosophique, de la sagesse qui montre que l'acte créateur de Dieu ne peut atteindre que l'essai, et que l'acte créateur de Dieu se termine à la réalité subsistante. Ça, métaphysiquement, ça ne peut pas être autrement. C'est nécessaire. Une fois que j'ai compris que créer, c'est faire quelque chose à partir de rien. Tout est parti de là, n'oubliez pas. Tout est à partir de cette première affirmation. Qu'est-ce que ça veut dire, créer ? C'est-à-dire faire quelque chose à partir de rien. Si vous restez fidèle à cette affirmation, créer, c'est faire quelque chose à partir de rien, vous aboutissez nécessairement à ça. Créer ne peut regarder que laisser participer. Que c'est faire à partir de rien. Si ça regardait autre chose, ben ouais, forcément, il y aurait quelque chose qui serait en deçà de l'acte créateur. Tandis que là, pas possibilité. Vous voyez, il n'y a pas d'infrastructure au point de vue de la création. Vous pourriez dire ça aujourd'hui dans un langage déterminé. Il n'y a pas d'infrastructure. Dieu seul est celui qui agit sans infrastructure. Nous tous, nous agissons avec des infrastructures. C'est Dieu seul agit de cette manière-là. Donc, il agit en dehors du marxisme. C'est merveilleux. Parce qu'il agit au niveau de l'essai. Par le fait même, le marxisme ne peut rien comprendre à la création. C'est une manière de retourner le problème. Si vous avez des catégories marxistes, vous ne pouvez plus parler de la création. Impossible. Absolument impossible. Parce que l'essai se ramène au fieri. C'est juste inverse. Il n'y a pas que le marxisme, tous les déviennes. À la place de dire chérie, égale ordonner laisser, vous avez ça. Laisser est dans le chérie. Et vous pensez toujours au niveau du chérie. Ben, si vous pensez toujours au niveau du chérie, alors vous ne pouvez plus penser la création. La création ne peut se penser qu'au niveau de l'essai. Et c'est une des manières, peut-être pour nous, si vous voulez, une manière très élégante de comprendre l'importance de la philosophie première. Si vous n'arrivez pas à penser ce qui est du point de vue de l'être, donc à penser ce qu'est c'est que l'essai, vous ne pouvez pas penser ce que c'est que la création. Impossible. Alors, pourquoi l'Église maintient-elle une philosophie première? C'est pour qu'on puisse encore penser la création. Un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Si vous ne supprimez la métaphysique, vous supprimez la possibilité de penser la création. Vous l'avez déjà dit, hein? Je n'ai pas assisté à beaucoup de congrès théologiques, parce que les philosophes sont mis à l'écart. Mais une fois, c'était à Rome. Donc c'était sur la question de l'évolution et de la création et des rapports entre la philosophie et la science. On avait invité deux philosophes de Fribourg. Alors j'étais là. Eh bien, la conclusion que la théologie aujourd'hui ne parle plus de la création, puisque la création, on ne peut en parler qu'avec une métaphysique. Donc, il faut que la théologie d'aujourd'hui ne parle plus de la création. Du reste, la création n'a rien à voir avec la théologie, puisque la théologie, c'est la rédemption. Donc, plus besoin de parler de la création. Ça va très loin, vous voyez. Parce que c'est la suppression, par le fait même, de toute l'attitude religieuse de l'adoration. Plus besoin de parler de ça. Il n'y a plus que la foi. La foi dans le rédempteur. Mais alors, le rédempteur, est-ce que la rédemption peut être pensée sans la création? Je ne crois pas, théologiquement. Puisque c'est une recréation. Si c'est une recréation, ça présuppose la création. Peut-on penser la grâce sans penser l'image de Dieu? Ça revient à ça. Peut-on penser la grâce sans penser l'homme? Oui, c'est une théologie qui se voudrait absolument indépendante de la métaphysique, donc indépendante de la théologie, elle veut dire indépendante de la création, et par le fait même une théologie uniquement mystique, qui se dit mystique, sans théologie scientifique. Donc, qui devient une théologie symbolique. C'était la conclusion à laquelle on avait abouti, du moins que ces théologies avaient abouti. Pour entendre dire après par le pape, le plus grand danger de la théologie aujourd'hui, c'est le fidéisme. Le pape avait visé juste exactement ce qui était au fond à la racine. Et personne n'a rien compris. Que le pape, en disant ça, condamnait tout ce qui avait été dit pendant cette session. Puisque cette session consistait à mettre entre parenthèses le problème de la théologie et le problème de la métaphysique, étant donné qu'on ne doit plus parler de métaphysique. Si on ne peut plus parler de métaphysique, on ne peut plus parler que de foi. Et vous voyez, vous tombez dans le fidéisme. Donc c'est pour ça que ces problèmes-là sont très actuels. Il faut saisir ce que c'est que la métaphysique de l'être pour parler de la théologie de la création. Article 5. Appartient-il à Dieu seul de créer? Cependant, saint Augustin assure que ni les bons ni les mauvais anges ne peuvent être créateurs d'une chose quelconque. À plus forte raison en est-il de même des autres créatures. Alors, voici. Il apparaît assez au premier regard. In primo aspectu. Après ce qui précède, que créer ne peut être la propre action que de Dieu seul. En effet, les êtres les plus universels doivent être rapportés au plus universel. En effet, les effets les plus universels doivent être rapportés au plus universel. et au plus élevé des causes. Or, entre tous les effets, le plus universel, c'est l'esser lui-même. Inter omnes effectus universalissimum est ipsum esse. L'esser, c'est l'effet le plus universel. Il faut donc qu'il soit l'effet propre de la première et de la plus universelle des causes, qui est Dieu. Aussi lit-on dans le livre des causes que ni une intelligence, ni une âme ne donne l'essai, si ce n'est en utilisant une vertu divine. Or, produire l'être, pris absolument, non selon qu'il est tel ou tel, est l'ouvrage de la création. Il est donc manifeste que créer est la propre action de Dieu seul. Ah, c'est très beau, c'est rigoureux, c'est raide, mais c'est très beau. Dieu seul communique l'essai. Et Dieu seul peut communiquer l'essai. Pourquoi ? Parce que l'essai, c'est l'effet le plus universel qui soit. C'est l'effet le plus universel. En effet, toutes les autres formes se ramènent à l'essai, participer. Donc c'est l'effet le plus universel. Si c'est l'effet le plus universel, ça doit se ramener à la cause la plus universelle. La cause la plus universelle, c'est Dieu. C'est un petit raisonnement très simple. Hein. C'est pour essayer de comprendre que nous ne pouvons comprendre, nous ne pouvons saisir la création qu'à partir de Dieu. La seule personne qui est capable de créer, c'est Dieu. Donc la personne humaine non sub ponit creari, en termes logiques. Non sub ponit creari. Je ne peux pas dire Pierre crée. Non, il ne crée pas. C'est impossible que Pierre crée. Dieu crée. Et Dieu seul crée. Parce que créer, c'est faire à partir de rien. Parce que créer, c'est communiquer l'essai. Et l'essai, c'est l'effet le plus universel. L'essai ne présuppose rien avant lui. Puisqu'il ne présuppose rien avant lui, nécessairement, il implique une causalité qui se fait à partir de rien. Il faut arriver à purifier notre imagination pour arriver à comprendre que seul Dieu crée. Métaphysiquement, ça ne peut pas être autrement. Dès que j'ai défini créer, c'est communiquer, c'est faire quelque chose à partir de rien. Alors, ça c'est la rigueur. Mais il arrive qu'un être opère une action propre à un autre, non par sa propre vertu, mais à titre d'instrument, et par la vertu de cet autre. Comme l'air, par la vertu que le feu lui communique, échauffe et brûle. Alors, voyez, ça c'est l'objection, c'est l'instance. Très juste. Seule la vertu divine peut communiquer l'essai. Il faut une vertu absolument universelle pour communiquer l'essai. D'accord. Mais après tout, Dieu peut se servir d'une créature pour communiquer l'essai. Autrement dit, est-ce que l'acte créateur de Dieu peut supporter une action instrumentale ? C'est une question très belle au point de vue théologique. Au point de vue théologique, ça se pose moins, mais comme ça peut se poser. Donc, la création peut-elle se servir d'instrument ? Puis geste instrument de Dieu pour créer. Alors vous voyez, une question analogue, qui est très très intéressante à voir, la recréation. Communication de la grâce. Communication de l'essai. Mettez ça en parallèle, ça aide à comprendre, il faut toujours faire ces analogies. la création de communication de l'essai, supporte-t-elle un instrument? Dieu peut-il se servir de l'humanité sainte du Christ pour créer quelque chose? Dieu peut-il se servir de l'humanité sainte du Christ pour communiquer la grâce? La recréation peut-elle se servir d'instrument? Vous voyez tout de suite la réponse, hein, je vous la donne, on va chercher les raisons, parce que c'est ça qui est intéressant. Donner la conclusion, il faut la savoir. Hein. Bon. L'acte créateur de Dieu ne supporte aucun instrument. Dieu ne peut pas créer en se servant d'un instrument. L'acte de recréation peut se servir d'un instrument. La communication de la vie divine, peut se servir d'un instrument. La communication de l'être, je ne dis pas de la vie, de l'être, ne se sert d'aucun instrument. Alors, est-ce que Dieu peut se servir d'une cause seconde pour communiquer la vie? Oui, mais pas l'essai. Ça, c'est très très important, ça. Bien saisir, hein. Alors, on va essayer de voir le petit raisonnement que donne saint Thomas. J'aime mieux lire saint Thomas pour vous montrer que c'est très limpide. Et qu'après, on reprendra pour montrer comment on ne peut pas se servir d'instrument. Impossible. Métaphysiquement, on ne peut pas se... l'acte créateur de Dieu ne peut pas se servir d'instrument. Alors, vous voyez, c'est toute la métaphysique de l'instrument pour nous. C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est la situation limite de l'instrument. La situation limite de l'instrument, c'est d'être en face du Créateur. L'instrument en face du Créateur, de dire « je ne peux rien ». Situation limite. Parce qu'il est dans le temps. Voilà, la situation limite. Et c'est vrai, l'instrument est nécessairement dans le temps. Donc il ne peut pas être en face du Créateur qui est dans l'éternité. Et l'instrument en face du Créateur disparaît. Pas d'instrument au niveau de la création. Même pas l'humanité sainte du Christ. Dieu peut se servir de l'humanité sainte du Christ pour réaliser des miracles, mais pas la création. Et vous voyez pourquoi? La raison est simple, c'est que l'instrument doit adapter la cause principale à l'effet. Il sert de métaxu, il sert d'intermédiaire. Si, justement, l'effet est totalement donné par le Créateur, sur quoi va se reposer l'instrument? Sur rien. Là, c'est une première raison, très simple à comprendre. Hein. La seconde raison est beaucoup plus complexe, c'est le mode propre d'agir du Créateur. Alors, le mode propre d'agir du Créateur répugne à l'instrumentalité. Parce que le Créateur agit d'une manière, d'un don substantiel. Et donc il ne peut pas y avoir d'instrumentalité. Mais on verra ça la fois prochaine.